Embarquement immédiat à bord de l'épisode 10 de l'expérience Shiban.
Salut, je suis Sébastien et avec mes amis derrière ce podcast, on te souhaite de passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, je reçois à distance
Delphine, j'ai 34 ans, je suis officier pilote de ligne sur Boeing 787 à Air France.
Ton parcours, Delphine, t'amène à avoir un recul assez important sur le métier de pilote de ligne malgré ton jeune âge. Parcours que je vais tenter de résumer avant de te laisser la parole pour que tu nous en dises plus. Bête de concours, tu as tenté toutes les voies possibles, ou presque, pour arriver dans un cockpit après une filière gratuite. Ça a fini par payer. La même année que tu finissais tes études à l'ENSICA, qui est aujourd'hui l'ISAE, tu décrochais le concours EPLS de l'ENAC en 2008. Tu fais connaissance avec tes nouveaux camarades et tu te dis que c'est la fin de la galère. Et puis, alors que tu es encore dans la phase théorique de la formation, le ciel vous tombe sur la tête. On entre dans une des plus grosses crises économiques depuis la Grande Dépression, et le secteur aéronautique n'est pas épargné. Tu restes concentré sur l'objectif, terminer ta formation de pilote professionnel. 2 ans plus tard, voilà chose faite et c'est un difficile retour à la réalité. Il n'y a pas de boulot pour les pilotes débutants. Tu rebondis, profites de ton diplôme d'ingénieur et c'est parti pour 5 ans chez Airbus, même si tu es une fan inconditionnelle de Boeing. Cette préférence personnelle pour Boeing, combinée à ton expérience professionnelle d'ingénieur chez Airbus, t'amène à avoir une assez bonne vision de la différence de philosophie entre ces deux constructeurs d'ailleurs, sans compter que tu as presque 2000 heures de vol sur Boeing. Malgré un travail d'ingénieur intéressant, tu continues à chercher un emploi de pilote quotidiennement. Tu te heurtes d'ailleurs à cette époque à une forme de sexisme qui te ferme à plusieurs reprises les portes de certaines compagnies, notamment dans l'aviation d'affaires. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Après des années de recherche infructueuse d'une place dans un cockpit et une qualification de type autofinancé sur Boeing 737, le premier emploi arrive enfin. C'est chez Feu XL Airways et seulement pour une saison été, mais c'est génial. Ça y est, c'est enfin parti. L'été suivant, rebelote, une saison d'été chez Europair Post, devenue ASL Airlines France. Tu découvres un type de vol un peu hybride, parfois passager, parfois cargo, et tu adores ça. On arrive ensuite à l'été 2017 et tu décroches le Graal pour toi, une place de copilote chez Air France après ta sélection passée 2 ans auparavant. Tu voles sur Boeing 737 chez Transavia et maintenant sur Boeing 787 à la maison mère. Tu as atteint ton rêve de gosse de faire du long courrier. Piloter une grosse machine, aller manger des sushis à Osaka cette semaine, un poulet coco à Nairobi la semaine d'après, et profiter des plages des Maldives à la fin du mois, voilà un emploi du temps qui en fait rêver plus d'un. Salut Delphine et bienvenue sur l'expérience Shiban.
Merci Sébastien, bonjour.
On va reprendre depuis le début. Tu es sorti de formation en pleine crise, une économie affaiblie et pas d'emploi de pilote en sortie. Une situation qui fait évidemment écho à ce que nous vivons en ce moment. Mais justement, ton parcours est l'exemple même dont nous avons besoin en cette période troublée. Car, comme je le disais, tu es aujourd'hui OPL, donc copilote, sur 787 chez Air France. C'est donc cette persévérance et cette détermination que j'aimerais que tu transmettes à nos auditrices et auditeurs. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler des différents concours que tu as passés et de ton parcours jusqu'à la fin de ta formation pilote ?
Alors déjà, merci Sébastien de m'avoir invité. Je suis très honorée de participer à ce podcast. Donc comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Delphine, j'ai 34 ans, je suis OPL sur Boeing 787. Et tout a commencé du coup quand j'étais ado, vers mes 13 ans, où là j'ai décidé du coup d'être pilote. Alors, j'avais aucune famille dans le milieu aéro, malheureusement. Même si, voilà, heureusement pour moi, ils m'ont toujours soutenu dans mon projet, ils m'ont toujours beaucoup encouragé. Donc ça a beaucoup joué aussi dans ma carrière. Mais la chance que j'avais, c'est que du coup, J'étais très avide d'informations, donc j'ai cherché voilà, des infos tout autour de moi par des connaissances, des amis. Et j'avais la chance d'avoir des voisins en fait, qui étaient pilotes. Bon, j'avais un voisin qui était pilote dans l'armée de l'air et un autre voisin qui était pilote de ligne dans une grande compagnie, Corsair du coup. Donc grâce à ces personnes notamment, j'ai pu voilà, récolter des infos sur les différents parcours pour devenir pilote de ligne ou pilote militaire. Et du coup, tout naturellement, j'ai pu me renseigner aussi par d'autres filières. J'allais tout le temps au Salon du Bourget. Mon père m'emmenait aussi aux différents meetings aériens. Donc ça me permettait voilà, de rencontrer du monde, de pouvoir discuter avec différents pilotes et surtout voilà, obtenir un maximum de conseils. Assez naturellement, je me suis orientée sur un bac scientifique pour pouvoir du coup m'inscrire aux classes préparatoires Maths Sup Maths Sp, qui était quand même le prérequis pour pouvoir passer pas mal de concours publics. Donc voilà, je suis passée par ce biais-là. Ce qui n'était pas facile, c'est que du coup, je ne pouvais pas tout de suite voilà, me financer un PPL. Ouais, je viens d'un milieu plutôt modeste, donc c'est pour ça que je me suis orientée d'abord sur des filières publiques. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer un ami de la famille qui était pilote du coup, pilote de ligne, et qui m'a emmené faire mon premier baptême de l'air en fait à cette époque, sur TB9 en région parisienne. Et du coup c'était une super opportunité parce que du coup c'était la première fois que je mettais les fesses dans un petit avion. Et ça m'a encore plus motivée et confortée en fait dans mon projet pro. Donc ça c'était un super souvenir. Revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire il fallait bosser, donc je suis allée en classe prépa. J'ai commencé du coup par tenter du coup les filières ENAC et CAD. Donc une première tentative en maths sup à l'ENAC. Du coup j'ai pas réussi à passer la première partie donc sur maths physique. C'était un échec, mais voilà, c'est en faisant des échecs en fait qu'on apprend et qu'on progresse. Donc la même année, pareil, j'ai fait ma première tentative au CAD d'Air France. Pareil, j'ai été arrêtée assez vite dans la sélection. Plein de gens l'imaginent, bon voilà, c'est un concours, il faut bosser, mais il faut surtout être dans les meilleurs pour être pris. Donc je ne me suis pas démontée, je me suis dit, bon allez, on a encore des cartouches à utiliser, on va continuer. Du coup, deuxième année de prépa, pareil, je retente l'ENAC. Alors là, j'arrive à passer le premier step. J'arrive justement à la deuxième partie, au psychotech et psychotest psychotechnique, test psychomoteur. Et là, pareil, je me fais ajourner, mais c'est pas grave, j'ai progressé. En un an, j'ai fait mieux. Donc, du coup, ça me remet un peu du baume au cœur. Et là, du coup, à la fin des deux années, il faut décider quelle est la meilleure option en attendant de réussir une école de pilote. Du coup, je décide de postuler quand même pour faire des écoles d'ingénieur aéronautique. Et là, du coup, je décroche l'ENSICA. Donc, super, maintenant qui s'appelle ISAE, parce que du coup, il y a une fusion avec l'autre école Super-Héros qui est basée à Toulouse. Je me dis, c'est la meilleure opportunité qui s'offre à moi en attendant de trouver une école de pilote. Donc, on va aller à l'ENSICA à Toulouse. Je suis sûre que ça va être une super expérience. Et en effet, pendant ces trois années à l'ENSICA, en fait, j'ai pas chômé. Du coup, ce qui était super intéressant, c'est que j'ai pu enfin passer mon PPL. Donc ça, c'était top. Attention à un prix imbattable, 25 € de l'heure. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont envie. Donc super sur DR400. Puis voilà, ces trois années à l'ENSICA, j'ai pu étudier des matières aéronautiques vraiment super intéressantes. Ça me permettait en fait aussi d'avoir un backup, de valider une formation diplômante, pour avoir ça sous le coude si ça marche pas de suite. Et puis le campus était basé à Toulouse. Du coup, j'étais pas très loin de l'ENAC pilote. Et ça m'a même permis du coup de rencontrer des élèves pilotes de ligne de l'ENAC, des EPL, et de sympathiser avec eux et d'obtenir beaucoup plus d'infos et surtout beaucoup de conseils pour pouvoir préparer mieux mes autres cartouches à l'ENAC. Ça, c'était vraiment super. Du coup, pendant ces années à l'ENSICA, j'ai rencontré beaucoup de pilotes pro parce que je rentrais souvent du coup voir ma famille le week-end, et donc je prenais l'avion et j'ai fait beaucoup de visites de poste. À la fin des vols, du coup, après l'atterro, où j'ai pu du coup rencontrer beaucoup, beaucoup de pilotes qui m'ont bien coaché, et ça, c'était top. Bon, en même temps, ça remotivait aussi, mais c'était utile et agréable. Voilà, ça faisait du bien au moral, et puis ça permettait de, voilà, de rien lâcher. Donc en, deux, voilà, en deuxième année d'école d'ingé, bah, en première année, pardon, je l'ai passé, j'ai repassé, j'ai passé du coup l'ENA, bah, ça c'était voilà, en 2005. Ensuite, je retente du coup 2006, c'est ma troisième cartouche à l'ENAC, donc je suis en deuxième année d'école. Et rebelote, je me fais encore arrêter à la deuxième session de la SELEC. Et enfin, du coup, là, je me dis, bon, il me reste une cartouche ENAC, une cartouche KD Air France, une cartouche aussi européenne, parce que du coup, je voulais aussi tenter les filières militaires. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé mes dernières cartouches pour ma dernière école d'ingé, ma dernière année, en me disant, bon, j'ai fait 2 ans, je vais, voilà, je vais garder précieusement mes cartouches, comme ça, j'y repasse en dernière année, je valide mon diplôme dans quoi qu'il arrive, et au moins, ça me laisse une année de plus pour voilà, souffler, mais aussi voilà, bosser tranquillement et pas me mettre trop de stress pour repasser mais, voilà, les derniers concours qui me restent. Voilà. du coup, alors, en 2007, je repasse du coup, ma deuxième cartouche KD Air France, et là, je vais jusqu'au bout, et je ne suis pas sélectionnée, je suis ajournée. Mais voilà, bon, avec le recul, j'étais pas assez bien préparée aux entretiens, donc j'ai, sur le coup, c'est dur à accepter, mais bon, on sait que c'est bénéfique, parce qu'en fait, si on sait où est-ce que ça a pêché, bah, ça nous permet de nous améliorer pour les sélections d'après. Ensuite, du coup, j'ai passé le concours des EOPN, donc les... pilote pardon de l'armée de l'air sous contrat en 2008. Pareil, là il y avait une semaine complète de sélection et donc du coup j'ai une petite anecdote. Bon, c'est assez drôle parce que du coup ça témoigne en fait de ma motivation pour être pilote ou rien. J'avais raté un des tests qui du coup me faisait orienter le reste de la sélection en tant que NOSA, c'est-à-dire navigateur officier système d'armes. Du coup, on me dit, bon, bah voilà, au deuxième jour, Delphine, bah tu continues la SELEC en tant que NOSA, il te reste encore que t'as l'épreuve à passer. Et là, j'ai dit, ah mais non, c'est pas pour moi ça. C'est super comme job, mais.
Je suis pas venue là pour ça.
Mais je suis pas venue là pour ça, donc merci beaucoup, monsieur, madame. Mais en fait, non, si je suis pas pilote militaire, bah je serai pilote dans le civil, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, je suis partie. J'ai même pas fini la SELEC, mais parce que c'était, pour moi, c'était hors de question de pas être pilote, en fait. C'était pas possible. Donc, du coup, voilà, je continue. Et fin d'année, du coup, fin 2008, du coup, là, il me reste ma dernière cartouche à l'ENAC. Et là, bah, voilà, le 24 juin 2008, j'apprends que je suis sélectionnée, que j'ai réussi le concours. Donc, je crois que c'est un de mes meilleurs jours de ma vie, je crois. Quand j'ai eu le résultat. Voilà, donc là c'était juste grandiose, j'étais juste super contente. Donc ouais, super. Là voilà, mon travail de quasiment 5 ans en fait avait payé à me lancer dans tous ces concours et là voilà, enfin une école que je réussis, donc super. Mais voilà, donc du coup en conclusion, voilà, déjà sur mon parcours scolaire, ce que j'en retiens et ce que je conseille aux gens, c'est vraiment déjà de travailler étape par étape, de bien se focaliser sur la marche ou le palier à franchir et de pas mettre la charrue avant les bœufs, de dire bon bah là le plus urgent c'est de bosser tel concours, telle partie, et vraiment de se focaliser voilà sur le sujet qui est en cours, c'est-à-dire pas s'inquiéter de ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans, mais voilà, bosser vraiment étape par étape. Ça c'est un conseil qu'un EPM m'avait donné justement pour passer la SELEC et les SELEC, et ça m'avait beaucoup beaucoup servi. Et deuxième conseil que j'aimerais bien donner du coup, c'est en fait j'avais déjà mon plan B en fait, c'est que à cette époque du coup voilà je tentais toutes les écoles publiques, mais si ça marchait pas, ben il me restait toujours la filière privée en fait, que je comptais du coup financer soit du coup grâce avec un boulot, un travail que je pourrais faire au sol, mais qui me permettrait du coup de pouvoir emprunter pour pouvoir me financer une école privée, ou même de pouvoir demander un fonds GSIF. Alors le fonds GSIF, pour ceux qui connaissent pas trop, en fait il faut avoir travaillé soit en CDI soit en CDD français. Et en fait, c'est une aide, voilà, c'est une aide qui peut être débloquée pour soit des reconversions, soit pour des formations diplômantes. Et tout ça, en fait, se fait dans le cadre d'un contrat de travail en France.
Mais c'est un truc auquel les gens pensent pas beaucoup, donc merci d'en parler.
Voilà, bah de rien, oui, justement. Bah moi non plus, c'est un conseil qu'on m'a donné, voilà. On n'y pense pas forcément.
Et donc, tu réussis, comme tu le dis, en juin 2008, le concours d'entrée à l'ENAC. Donc, tu commences cette formation de pilote de ligne que tu attendais depuis plusieurs années. Comment ça se passe pour toi?
Alors, du coup, voilà, on arrive tous très heureux. Voilà, on commence si je me souviens bien, oui, c'était en août, voilà, en août 2008, on arrive à l'ENAC. Donc, on est super contents et puis on commence du coup par la phase théorique. Et là, du coup, on apprend, voilà, en tout début de formation, bah, que c'est la crise et qu'il y a de grandes chances qu'on n'ait pas forcément de travail à la sortie. Mais malgré tout, en fait, on se laisse pas polluer par ça, en fait. On se laisse pas polluer par la mauvaise nouvelle. On se concentre sur chaque phase à valider, la phase théorique, ensuite la phase en vol. Parce que du coup, la formation dure quand même 2 ans, 2 ans et demi. Donc, il y a beaucoup de travail. Et du coup, on a fait exactement ce que je disais juste avant. En fait, on a travaillé étape par étape à valider pour, de toute façon, voilà, il fallait qu'on valide cette super opportunité qu'on nous offrait. Du coup, on est un peu resté, voilà, dans notre bulle, en fait. Dans notre bulle, voilà, de formation de pilote professionnel. Et du coup, c'était quand même super. Enfin, c'était les meilleures années de ma vie à Paris Air France. Et j'en garde que des bons souvenirs, même si on savait que il y avait peut-être, voilà, l'ombre de la crise qui allait nous rattraper 2 ans après. mais du coup, c'était super. On s'entraidait beaucoup, rien qu'à l'école déjà, rien que pour réviser la théorie. Même en pratique aussi, on se donnait des petits coups de main. Donc, c'était vraiment génial. Enfin, clairement, si c'était à refaire, j'aimerais bien y retourner des fois. C'était tellement des bons souvenirs. Voilà.
D'ailleurs, vous étiez une promo de combien à l'époque? Vous étiez une assez grosse promo par rapport à aujourd'hui?
Ouais, exactement. Là, je pense qu'on était la plus grosse promo depuis une dizaine d'années. On était 80, donc répartis en deux groupes de 40 A et B. Et ensuite, qui étaient du coup, eux-mêmes, le groupe de 40 était divisé en petits groupes de, je me souviens bien, on était 10 à chaque fois. Des petits groupes de 10 maximum, répartis sur tous les centres. Et ouais, c'est sûr que, ouais, juste avant 2008, le trafic était tellement, enfin, le trafic aérien était tellement en expansion, la demande était gigantesque, en fait. Donc c'était logique, ouais, qu'une année auparavant, quand ils ont décidé, voilà, de mettre des places à l'ENAC, ils se sont dit, bon, bah, on va faire une énorme promo parce qu'il y a vraiment un besoin. Donc c'était vrai en 2007, en 2006, mais en 2008, c'était plus le cas. Mais bon, c'est sûr que, voilà. Mais bon, voilà, on a quand même eu cette chance, quoi.
Et on arrive donc en cette fin d'année 2010, quand tu finis ta formation de pilote de ligne à l'ENAC. Tu vas directement chercher un travail, mais comme tu disais, bon, ben, c'est la crise, il n'y en a pas. Pas de temps à perdre, tu décides de chercher un travail d'ingénieur et 3 mois plus tard, te voilà au cockpit design chez Airbus. Tu as fait ça pendant 3 ans et ensuite tu es passé au département des flight operations, des opérations de vol. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as appris pendant ces années hors d'un cockpit, mais quand même dans l'aéro? Pas totalement en dehors d'un cockpit d'ailleurs, vu que tu allais faire du largage de parachutiste le week-end. Bon, raconte-nous cette période, s'il te plaît.
Oui, tout à fait. Alors, voilà, donc du coup, moi, je suis sortie de formation très rapidement, donc fin 2010, donc à peine 2 ans et quelques mois, et voilà, recherche pilote, et là, on se dit, ah, bah oui, c'est toujours bouché, ça n'a pas changé. Donc, voilà, je suis sortie, moi, j'avais 24 ans, du coup, et pour moi, en fait, c'était hors de question que je retourne habiter chez mes parents. Il fallait que je sois indépendante. Donc là, du coup, j'ai vu les options qui s'offraient à moi. Et du coup, je me suis dit, bon, on va envoyer des CV pilotes partout, mais là, ça risque, voilà, ça va pas mordre à l'hameçon tout de suite. Et clairement, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant pour être indépendante financièrement, pour pouvoir, voilà, me financer aussi des heures de vol. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai un beau diplôme quand même, ce serait dommage de pas s'en servir. En plus, je suis à Toulouse. Bon, c'est un peu le berceau de l'aéronautique en France. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même postuler partout, aussi, voilà, dans des entreprises pour faire de l'ingénierie. Et là, c'était super vite. En 3 mois, la sélection était déjà faite, du coup, pour un poste chez Airbus. Parce que, du coup, à cette époque, voilà, les ingénieurs, du coup, ça recrutait beaucoup. Donc, heureusement pour moi. Et du coup, j'intègre, voilà, le département cockpit opération pendant 3 ans. Et super opportunité. Donc, le but, voilà, de mon travail, c'était, en fait, de définir en fait des designs pour des fonctions dans le cockpit. C'est-à-dire, par exemple, voilà, Airbus veut créer une nouvelle fonction dans le cockpit. Donc en fait, je devais prendre en compte le besoin en fait pilote en interviewant en fait des pilotes d'essai d'Airbus et en prenant en compte les opérations en vol, vraiment les contraintes en fait que le pilote va avoir tous les jours. Donc je lui demandais voilà à quoi servirait cette fonction, comment elle doit être faite, tu veux t'en servir comment, est-ce que c'est un bouton, tu voudrais qu'elle fasse quoi, tu appuies dessus et voilà entre autres pour donner un petit exemple pour que ce soit un peu plus concret. Donc je récoltais le besoin et en fait je proposais du coup une solution de design vraiment haut niveau, c'est-à-dire par exemple voilà un bouton c'est une spécification haut niveau, voilà c'est un bouton, c'est un levier, c'est une manivelle, voilà. Et du coup je devais proposer une solution de design en travaillant aussi en binôme avec des spécialistes des facteurs humains pour justement le design retenu soit ergonomique et prenne en compte vraiment le besoin pilote. Du coup, voilà, on faisait ça en binôme, et ensuite on validait la fonction, par exemple le design choisi, en testant du coup par des campagnes de validation, on faisait des séances de simulation en fait, voilà, on faisait passer nos pilotes d'essai, et en fait on testait la fonction comme ça, et ça nous permettait de dire bon bah finalement la fonction devrait peut-être changer un petit peu sur ce petit détail, ça a l'air d'être plus facile comme ça, on fait comme ci, on fait comme ça, et voilà, et comme ça après, eh bien on peut implémenter la fonction sur un Airbus. Donc voilà, donc c'était super intéressant. J'ai fait ça pendant 3 ans et au bout d'un moment, du coup, je voulais changer du coup au sein d'Airbus et je me suis dit bon, bah ce serait bien aussi de faire un peu plus d'opérationnel, de vraiment être voilà au cœur du métier pilote. Et là, du coup, je me suis dit ah bah il y a un super service aussi qui serait bien intéressant. Ça s'appelle du coup Fait Opération. Du coup, les opérations en vol. Bah voilà, j'ai postulé, j'ai fait une sélection interne, voilà, et du coup j'ai pu commencer donc à travailler du coup sur la mise à jour en fait des manuels d'opération en vol de tous les Airbus. C'est pour ceux qui connaissent tout ce qui est FCOM, QRH, MEL, AFM, donc tous les manuels de vol voilà qu'on utilise pour opérer un avion. Et en plus de ça, du coup on devait du coup mettre à jour ces manuels, on devait faire le support client. C'est-à-dire, en fait, on répondait aux questions des compagnies sur ces manuels de vol, voilà, par mail ou par téléphone. Et ça, du coup, c'était un aspect super intéressant aussi. Enfin, du coup, de à la fois savoir comment on opère l'avion, pourquoi est-ce qu'on a implémenté telle procédure, on participe justement à la rédaction des procédures, et en même temps, ce contact, en fait, avec les compagnies aériennes, où justement, les chefs pilotes nous contactent et nous disent « Bah, je comprends pas très bien pourquoi vous avez fait ci, vous avez fait ça ». Et du coup, nous, c'était notre but, notre rôle de leur expliquer. Donc ouais, une super, super expérience, franchement, voilà, de voir les coulisses d'un des constructeurs, comme tu as dit, voilà, c'est exactement ça. Et du coup, en parallèle de tout ça, donc du coup, j'étais bien occupée, voilà, j'avais ma casquette ingénieur, j'avais aussi ma casquette pilote à côté, et donc... Donc voilà, donc pendant ces années, c'était le gros topic de ma vie, recherche active d'emploi pilote. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver des opportunités? Alors déjà, je me suis réinscrite évidemment à l'aéroclub. Donc ça, c'était top, parce que du coup, à notre aéroclub, on avait même des TB20, et du coup, ça c'est l'avion sur lequel on a beaucoup volé lors de la formation IRAC. Et du coup, je revolais avec des copains pour justement pas perdre la main, faire un petit peu d'IFR, donc faire un petit peu de volant aux instruments. Pour justement, pas perdre les bonnes habitudes, comme on dit. donc voilà, parce qu'évidemment, tous les ans, il faut proroger toutes nos belles licences. Il ne faut rien laisser périmer. Ensuite, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais fait un fichier Excel avec toutes les compagnies qui recrutaient ou même qui ne recrutaient pas. Et tous les jours, j'ai passé au moins une heure à scruter toutes les annonces qu'il y avait sur Internet. Mais tout, hein, vraiment, tout ce que je trouvais, ça y passait. Du coup, je me faisais mon fichier entre... il y a bien une session de recrutement, j'ai envoyé un CV, j'ai pas eu de réponse. Bon, on va être honnête, sur tout ce que j'ai envoyé, je crois que j'ai eu 2-3 réponses. C'était catastrophique, le secteur, là. Clairement, quand j'avais une réponse négative, limite, j'allais dire merci aux gens, quoi. C'était...
pris le temps.
Oui, exactement. Non, mais c'était... Quand j'y pense, c'est super cocasse, quoi. C'était vraiment merci de m'avoir dit non, merci, quoi. Donc, c'était une autre époque. Donc, j'avais mon petit fichier, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que... Bah, j'ai pris ma petite voiture et puis je me suis dit, week-end, bah, je vais faire le tour de la région, voilà, Midi-Pyrénées. Je me suis dit, je vais aller voir les aérodromes et voir est-ce qu'il y a du travail aérien aussi. Parce que du coup, ça, c'est, voilà, sur les aérodromes qui étaient vraiment proches, très très proches là où je volais, franchement, le secteur était bouché, les postes de FI, d'instructeurs, en fait, même bénévoles, c'était la guerre pour avoir un poste. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller taper un peu plus large, je vais faire peut-être une heure de route, mais on sait jamais. Hein. Donc, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je cherchais sur les petits terrains, soit à faire du remorquage planeur ou du largage même. Donc, j'allais sur, voilà, j'ai pris ma bac et j'ai regardé tous les terrains, j'y suis allée. Ça a mordu à l'hameçon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé deux choses. Alors, j'avais une opportunité pour faire un peu de remorquage planeur sur un petit terrain, du coup, pas très très loin, donc top. Et en même temps, j'ai eu un ami, pareil, qui m'a proposé de lui donner un coup de main et de le remplacer de temps en temps pour faire du largage de parachutiste sur Cessna 182. Donc, un petit avion où on emmène juste un tandem derrière et un vidéoman. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des parachutistes professionnels qui, font découvrir le parachutisme en faisant des baptêmes de l'air à des gens qui n'ont jamais sauté. Là, pareil, il a fallu que je choisisse. Eh bien, j'ai choisi le largage. Pour deux raisons, en fait. L'activité parachutiste m'a attiré déjà beaucoup depuis un petit moment. J'avais fait un saut d'initiation à l'NCK pendant mon école d'ingé, et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et le largage était un moyen aussi de monter des heures de vol beaucoup plus vite que du remorquage planeur. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai le choix, je vais prendre ce qui me correspond le mieux. Du coup, c'est parti, j'ai fait un peu de largage para, du coup, les week-ends, en fait, en plus de mon travail à Airbus, pendant deux étés. Et du coup, c'était mon premier petit boulot de pilote, et j'étais fière de le faire. Enfin, franchement, c'était une super opportunité, je m'appliquais bien, je me souviens que, comme il n'y avait pas forcément de checklist par cœur, en fait, je me souviens que j'avais adapté celle du Baron, c'est-à-dire le bimoteur sur lequel on a fait la formation à l'ENAC, et j'ai adapté ces checks et je me les récitais par cœur, du coup, pour me faire mes checks en vol, en fait, parce que du coup, dans ce boulot de largueur parachutiste, on n'a pas le temps on fait tout par cœur, en fait, on sort pas la checklist après décollage, c'est comme on nous a appris, en fait. À l'ENAC, du coup, je me souviens que je m'étais structuré en fait mon environnement de travail grâce à ce que j'avais appris à l'ENAC.
Au bout d'un moment, en voyant que toutes les offres d'emploi mentionnent qu'il faut déjà être qualifié sur l'avion, tu vas décider de te financer une QT, donc une qualification de type, sur Boeing 737. C'est un investissement conséquent, mais qui à l'époque semble être au final la seule solution pour enfin décrocher une place en tant que pilote dans un avion de ligne. Ça a fini par payer, mais ça a quand même pris pas mal de temps. Avec le recul, si c'était à refaire, t'aurais refait pareil ?
Alors, ouais, carrément. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, comme tout le monde, comme tous mes amis pilotes, on essaie de trouver la meilleure façon d'accéder à un poste. Alors, c'était simple, c'était soit... j'empruntais pour me financer une formation d'instructeur, mais comme j'ai dit, les places même de bénévoles étaient chères, c'était vraiment super super bouché. Ou alors je me suis dit, j'emprunte le double, mais au moins je suis directement embauchable et n'importe où dans le monde, quasiment. Enfin, avec des licences européennes, en tout cas, on a toute l'Europe, on a l'Asie, on a l'Afrique qui est accessible. Du coup, banco, je me suis dit, la meilleure option pour moi à ce moment-là, c'est une QT. Alors après, il restait le choix d'AQT, Est-ce que je prends un Airbus 320 ou est-ce que je prends un Boeing 737? Et là, pareil, je me suis dit, essayer de faire un choix rationnel, mais aussi, un petit peu aussi coup de cœur, parce que faut pas aussi se faire plaisir dans la vie. J'ai fait un espèce de benchmark et je regardais en Europe déjà, il y avait quasiment autant de 737 que de 320. Qui était opéré par toutes les compagnies. Du coup, je me dis, quel que soit le choix, du coup, ce sera un bon choix. Et puis ensuite, en fait, à cette époque, j'avais du coup réussi à me former un peu un petit réseau de coups de contact, parce que forcément, quand on cherche du boulot partout, c'est du bouche à oreille. Et du coup, j'avais des contacts dans des compagnies, justement, qui opéraient le 737NG. Deuxième argument en faveur. Et ensuite, troisième argument, je me dis, je vais devoir emprunter des sous que j'ai pas. Est-ce qu'il y a un avion qui me fait plus envie que l'autre? Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, pour commencer, je pense que un avion un peu plus, entre guillemets, rustique, sans commande de vol électrique, qui ressemble vraiment à un gros baron, donc c'est-à-dire un Beechcraft 58, l'avion bimoteur de l'ENAC. Je me suis dit, ouais, en fait, ça me fait plus envie, pour commencer en tout cas ma carrière, j'ai le choix, bon, je vais prendre celui-ci. De toute façon, voilà, le 320, je vais sûrement faire aussi un jour, donc voilà, j'ai 37, c'est pas sûr. Donc du coup, je me lance dans une QT 737NG, donc les derniers récents, les derniers 37 sorties. Et ouais, pour la petite anecdote, bah, j'avais du coup essayé un fonds GSIF et en fait, ça n'avait pas marché. C'est-à-dire que mon dossier avait été... j'avais postulé grâce à mon CDI et en fait, bah, soit j'avais... Je sais pas trop, mais en tout cas, j'avais peut-être pas assez d'ancienneté par rapport à d'autres candidats dans leur formation. Donc ça m'a pas arrêté. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que du coup, mon fonds GSIF a été refusé, mais ça m'a pas arrêté. Du coup, je suis allée voir la banque et puis voilà. donc voilà, donc je fais ma QT voilà, à Amsterdam. Dans un ATO super, du coup, celui qui était en fait de Transavia Hollande. Donc, super formation, par contre, super rapide. C'est, voilà, il faut bien bosser et très rapidement. Du coup, grâce à cette QT, bah, je repostule partout en fait, avec mon super fichier Excel. Je renvoie mon CV à jour. Voilà, très fière de ma nouvelle QT, je repostule partout. Mais là, c'est pareil, c'est toujours un peu bouché, c'est-à-dire qu'on demande une demande QT plus 500 heures sur la machine, minimum, voire même 1000. Et en fait, à ce moment-là, c'est du coup, après 2013, c'est toujours l'avènement en fait, du pay-to-fly. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des compagnies pas très recommandables, du coup, qui proposent en fait, des blocs d'heures où en fait, les pilotes payent pour travailler. Et c'est, voilà, et c'est vraiment... Bah, c'est un peu d'esclavage moderne, quoi. On va dire que voilà, le jour où ce sera légiféré et peut-être interdit en Europe, bah, ce sera une bonne journée, quoi. Donc, donc voilà, il n'y avait que ça. Donc du coup, bon, je continue quand même. Je me dis de toute façon, voilà, je me suis formée, je vais entretenir ma qualif, et puis à un moment, ça va marcher. Mais où et quand, ça, c'est la question.
Et avant d'en arriver à ton premier emploi en tant que pilote de ligne, parce que ça a fini par marcher, sinon tu serais pas là aujourd'hui, tu as malheureusement été confronté à des difficultés pour trouver un emploi de pilote par le fait que tu es une femme. En Thaïlande, par exemple, mais même en France, dans l'aviation d'affaires, par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît?
Ouais, et bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, en sortant, je pensais pas en fait que ça ferait une différence, mais malheureusement en fait, ça a fait une différence sur certaines compagnies, petites compagnies. Du coup, je vais expliciter. Donc moi, je postulais partout, hein, même si j'avais pas forcément la qualif ni même les heures. Enfin voilà, de toute façon, j'envoyais mon CV partout. Et là, j'ai un contact dans une petite compagnie d'affaires. Et du coup, je me dis, ah, chouette, super, c'est pareil, une super opportunité. Et là, en fait, on me fait venir, du coup, dans les locaux. Et on m'explique qu'en fait, on ne prend pas de femme pilote. Et que du coup, ils ne savent pas trop comment faire. Ils disent, bon, bah, sinon, on peut vous donner un job au sol en attendant. Je dis, mais en attendant quoi? Donc du coup, j'étais choquée parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas.
Et pourquoi? Ils ont dit pourquoi?
Non, par contre, je sais. Non, ils ont pas vraiment dit pourquoi. C'était non, justement, non. Non, bah, en fait, j'ai même pas voulu demander pourquoi parce que je sais que la réponse aurait été stupide. Donc du coup, je voulais même pas savoir, je pense. Du coup, Mais du coup, voilà, je me suis pas arrêtée à ça. En fait, je me suis dit bon, bah, tant pis, ils veulent pas de femme pilote, bah, tant pis pour eux. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai même pas voulu négocier quoi que ce soit en disant oui, prenez-moi au sol, on verra après. Je suis pas là pour perdre mon temps et qu'on me mène en bateau.
Je comprends.
Du coup, c'était un peu flippant, mais après, voilà, toutes les compagnies d'affaires ne font pas ça, heureusement, mais certaines apparemment le faisaient. Donc ça, c'était voilà une expérience assez choquante. Et ouais, j'ai une deuxième anecdote comme ça où voilà, je suis un peu tombée de haut, pareil. En fait, j'étais en Thaïlande pour mon travail à Airbus, du coup, que je faisais comme ingénieur sur un détachement de quelques mois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai mon CV, je peux peut-être y aller un soir, passer et peut-être postuler carrément en direct. Voilà, ça fait toujours son petit effet quand on donne son CV en direct que sur Internet, même si on est en 2021, je pense que Ça peut toujours se faire. Du coup, j'appelle une compagnie basée à Bangkok. J'appelle du coup leur numéro qui est du coup le numéro basé à l'aéroport en fait, parce que je connaissais pas leurs locaux en fait, je savais pas où ils étaient placés. Du coup, j'appelle la dame. Enfin, je tombe sur une dame. Je lui explique. Je dis bonjour. Je suis pilote. Je suis française. Moi, je suis bilingue. Est-ce que vous recrutez des pilotes en ce moment? Je voudrais vraiment vous déposer mon CV en main propre. Je suis à Bangkok. Et là, la dame qui me dit, mais non, mais on prend pas de femme pilote. Et là, pareil, la déception. Parce que je m'y attendais pas du tout. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, merci quand même, madame. Au revoir, madame.
Ouais, bonne journée.
Mais, bonne journée. Mais c'est vrai que, ouais, heureusement que, voilà, tout le monde fait pas ça. Sinon, ce serait bien triste. Mais du coup, bah, je me suis pas arrêtée à ça. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, faut pas s'arrêter à ça. Parce que les compagnies, les entreprises commencent à comprendre de plus en plus, en fait, que c'est dans l'intérêt d'avoir des équipages mixtes. Un équipage mixte, comme par exemple un groupe de travail mixte, bah, ça a été prouvé en fait qu'on est plus efficace, donc forcément plus rentable pour une compagnie ou même une entreprise lambda. Et clairement, ce qu'on peut voir, c'est que ouais, voilà, faut pas s'arrêter à ça. Et heureusement, la majorité des compagnies ne font pas de discrimination. Et on peut même voir, en sens inverse, en fait, on a l'exemple voilà, d'une célèbre compagnie low cost Orange qui cherchait du coup à recruter plus de filles il y a quelques temps et qui l'affichait ouvertement en fait dans ses campagnes de sélection en disant on veut des candidates candidatées quoi. Et ça c'est bien, ça veut dire du coup ça, parce que ça peut sûrement du coup attirer plus de filles dans ces formations. Et c'est une bonne chose. Du coup, ça montre que voilà, les mentalités changent, que les compagnies voilà qui sont respectueuses de leur personnel justement prônent justement cette mixité. Et moi, ce qui me met du baume au cœur, c'est que voilà, les grandes compagnies entre guillemets nationales, les majors dont font partie Air France, par exemple, on n'a aucune discrimination ni dans le recrutement ni dans la formation. Et au contraire, en fait. Par exemple, du coup, chez nous, à Air France, on a plus de 9% de femmes pilotes. Et c'est, en fait, c'est beaucoup. C'est, quand on regarde ce chiffre, c'est pas la moyenne mondiale, pas du tout. Donc,
ouais, et quasiment trois fois la moyenne mondiale, non?
Ouais, c'est super, du coup. Et je suis vraiment fière de voler pour une telle compagnie qui promouvoit justement l'égalité professionnelle et la mixité. Et en fait, on observe du coup que ça bouge quand même doucement, mais vraiment dans le bon sens. Donc c'est ça que j'en retiens, c'est que du coup, malgré voilà des petits revers de médaille qu'on peut toujours observer, la majorité des compagnies voilà s'ouvrent à une mixité et ça c'est vraiment génial. Par exemple, on voit aussi de plus en plus de femmes pilotes entre guillemets porte-parole qui s'affichent dans la presse, qui racontent leur parcours ou même sur d'autres médias. Et c'est vraiment super encourageant de voir ça, car ça peut, pour moi, à mon sens, en fait, ça peut clairement inspirer des filles, des jeunes filles, ou même moins jeunes filles, on s'en fiche de l'âge. Mais voilà, ça peut inspirer beaucoup de femmes à se lancer dans ce métier. Et c'est bien, voilà, cette médiatisation, en fait, de notre métier en tant que femme, en fait. Donc, ça met du baume au cœur aussi.
Oui, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment avec Béatrice Vial et Lydie Vissot. Et
oui.
Voilà, elle mettait vraiment l'accent sur le fait qu'il n'y a aucune. Raison pour les femmes qui en ont envie de pas se lancer dans ce métier-là, quoi. Enfin, vraiment aucune. Et qu'en plus, des compagnies comme Air France ben voilà, garantissent l'égalité salariale à 100%. Et que ouais. Voilà, tu travailles dans une boîte comme ça, c'est très bien.
Ouais, exactement. Mais c'est ça, la vidéo, elle était top. Je l'ai vu aussi, j'adorais. Voilà.
Bon, eh bien, merci d'accepter de partager ton expérience là-dessus avec nous. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus léger, je te propose qu'on passe au segment des questions-réponses rapides. On en a trois,
ouais.
Si tu veux bien.
Ça marche, je suis prête.
Alors, première, vu que tu as travaillé en cockpit design, qu'est-ce qui est le plus ergonomique, le volant comme sur un Boeing ou le mini-manche comme sur un Airbus?
Oh là là, ah non.
Question difficile.
Pardon.
Mais il n'y a qu'une seule bonne réponse.
Ouais, non mais non, évidemment, je suis tellement parti pris, mais ouais, non, moi je suis pro au yoke, donc le volant Boeing, ouais, moi j'adore, c'est vraiment C'est vraiment Boeing, c'est mon dada, comme je dis beaucoup. Donc, ah non, c'est clair, moi je suis plus. Ouais. Mais c'est très personnel, hein, je tiens à le souligner encore. Mais,
oui, chaque pilote a sa préférence.
Exactement. Moi j'aime beaucoup d'avoir, voilà, de sentir l'avion, d'avoir le retour d'effort, même si évidemment il a atténué parce qu'on a quand même des assistances, mais de sentir l'avion, de sentir ce que fait ton collègue grâce au yoke, ouais, moi pour moi c'est. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Mais voilà, après, j'essaye, tous les goûts sont dans la nature.
Oui, voilà. Après c'est vrai que le mini manche pour pouvoir avoir le plateau repas en face de soi, c'est quand même confortable.
Alors ça c'est vrai, c'est ce que mes copains sur Airbus disent. Mais ça c'est vrai, mais je ne le sais pas du coup.
Alors deuxième question, on va passer sur le long courrier là pour les deux suivantes. Tu préfères un lever de soleil au-dessus de la Sibérie ou découvrir les côtes françaises qui s'illuminent et qui se découpent dans la nuit?
Ah ouais, non, je préfère la nuit. Ah, les côtes françaises, ouais. Ah, c'est, ouais. En plus, c'est clairement. Alors, j'ai entre lever de soleil et coucher de soleil, moi, je suis carrément plus couché de soleil parce que les lumières sont vachement plus rouges, en fait. Plus rouges et plus orangées. Et ouais, les meilleures photos se font le soir, moi, je trouve. Le lever de soleil est joli, mais c'est plus dans les tons rosés. Mais alors, le soir, quand c'est rouge brûlant, le soleil, c'est. Non, c'est juste magnifique. Et après, t'as le lever de lune. Ah non, c'est juste splendide. Moi, je suis clairement couché de soleil et côte française est illuminée par les étoiles. C'est vraiment ça.
Ok. Tu préfères manger des sushis à Osaka ou un poulet coco à Nairobi?
Alors, je préfère du coup les sushis Osaka sans hésiter. Je pense que c'était les meilleurs sushis de toute ma vie. Mais vraiment.
Très bien, et bien on recommande à l'auditeur qui, s'il y en a un qui veut aller à Osaka manger des sushis.
Ah ouais, je vous recommande.
Quel a été le plus beau jour pour toi? Celui où t'as reçu la nouvelle que t'étais admise à l'ENAC ou celui où t'as reçu la nouvelle que t'avais réussi la sélection Air France?
Ah franchement, franchement les deux. En fait, je peux pas choisir parce que ouais, là va pas sans l'autre en fait. C'est ça qui est. En fait, je me suis tellement acharnée j'avais tellement la rage de réussir un concours, d'une école publique, l'ENAC, c'était génial. Et puis, pareil, j'avais tellement la rage, la motivation pour justement assouvir mon rêve de gosse et rentrer à France que c'était pareil. Je pourrais pas. En fait, l'un va pas sans l'autre. En fait, c'est pour ça. Du coup, je vote en touche. C'est les deux sont. Était vraiment d'une émotion incroyable tous les deux, en fait. Bon, ouais, je peux pas choisir.
La question était particulièrement difficile, donc la réponse est acceptable.
Merci.
Alors, on arrive enfin à ton premier job de pilote de ligne en 2016, après des années de recherche. L'occasion de passer la sélection se présente un peu au dernier moment, notamment grâce à des contacts, comme tu le disais tout à l'heure, et tu décroches un CDD français pour la saison été. C'était comment de enfin pouvoir exercer le métier dont tu rêvais depuis si longtemps?
Alors du coup, ouais, c'était magique. Alors ce qui s'est passé, c'était début 2016. À cette époque, du coup, j'étais libre de tout contrat à ce moment. Donc un super heureux hasard, comme on dit. Et là, je reçois un coup de fil du coup de quelqu'un, voilà, d'XL Airways avec qui j'étais en contact. Et qui me dit, Delphine, on fait des sélects quasiment demain, parce que en fait, le 737 NG sort de la flotte. C'est la dernière saison. Du coup, il y a quelques pilotes de chez nous, bah forcément, qui ont cherché du travail ailleurs et surtout un CDI, parce qu'ils savent que du coup, ils seront pas repris l'an prochain. Du coup, il me dit, est-ce que t'es libre? Là, dans deux semaines, je suis oui, évidemment, ouais, je suis libre même demain si tu veux. Donc vraiment le truc, mais je m'y attendais même pas en fait. C'est ça qui est fou, c'est que ouais, c'était vraiment le Père Noël quoi. Je m'attendais pas et au dernier moment, il me dit t'as une sélec et rien que déjà le mot sélec, c'était j'en avais passé aucune. Enfin, je veux dire du coup. Malgré tout ce que j'avais fait après l'ENAC, voilà, tous mes efforts et toutes mes candidatures, j'avais eu zéro sélec. Donc c'est pour ça, là, c'était ma première, donc j'étais super honorée. Donc du coup, je vais à la sélec, et banco, ça marche, voilà, petit simu, voilà, tout se passe très bien. Et voilà, et tout ça grâce voilà au réseau que je me suis fait depuis toutes les années depuis 2010 en fait, tous les gens que j'ai appelés, tous les gens avec qui j'ai parlé de ma recherche d'emploi. Donc, super, je commence mon CDD, et en fait, c'est super parce qu'ils m'embauchent avec 0 heure de vol sur la machine. C'était tellement, ça valait cher en fait ces premières heures que j'allais faire parce que c'était vraiment le tremplin en fait qui me manquait après cette QT. Donc, j'ai fait mes premières heures de vol sur CS25 et sur le réseau qui en plus était super sympa. C'est un réseau charter, donc c'est des destinations entre guillemets soleil où on emmène les gens en vacances. Donc c'est des super super terrains quoi. Et je me souviens mon premier vol, tout premier vol du coup. Pour moi c'était Disneyland, hein. C'était vraiment franchement c'était montagne russe émotionnelle quoi. Et du coup mon instructeur qui était super, instructeur en ligne, qui me dit écoute, profite là, premier vol, tu fais ton boulot, mais on parlera des sujets techniques au sol, là tu profites juste, tu fais ton boulot de pilote comme tu sais faire, comme on t'a appris, et surtout t'apprécies quoi. Et ouais, c'était vraiment ça quoi. On est à La Palma et franchement, c'était juste trop joli quoi. Et me dire que c'est moi, du coup, comme on est tous ces gens en vacances, j'étais super contente quoi. Donc les premières heures sur CDD et à la fin du coup, fin du contrat, même un peu avant la fin du coup, je repostule partout parce que je sais que du coup, dans tous les cas, ils me prendront pas l'année d'après parce qu'il y a plus de 37. Donc, je repostule partout en mettant à jour mon CV avec mes jolies heures de vol qui valaient très cher enfin. Du coup. Enfin, ces heures de vol, voilà. Non, je n'ai plus 0 heure sur la machine. Donc super. Je renvoie partout. Et là, pareil, ça commence à se débloquer. Hiver 2016. Là, je reçois pareil 2 appels en sélec. Mais vraiment, le truc, pareil, je m'y attendais tellement pas, je pensais que ça allait être encore plus la galère, mais non. Du coup, j'ai une sélection chez Repère Poste, comme tu dis, voilà, maintenant qui s'appelle ASL Airlines France, et une autre sélection chez une compagnie néerlandaise très connue qui travaille en fait surtout avec des tours opérateurs. Donc pareil, on emmène beaucoup de gens en vacances, voilà. Du coup, je passe les deux, et bien je réussis les deux, donc pareil, je suis super contente. Et là, du coup, voilà, comme dans toute carrière de pilote, va falloir faire un choix et faire le choix qui nous correspond. Et du coup, là, je me dis, les deux, ils peuvent être basés CDG. Très bien, ça me convient bien. Il y en a un, c'est en CDI. Les Néerlandais me proposent un CDI. La Poste me propose un CDD. Ok, bon, après, ça, c'était pas dans mes premiers critères. On va dire que les deux contrats étaient français, donc c'était tous les deux super. Donc pour moi, c'était un peu un critère égal. Mais après, je regarde et je me dis, ouais, quand même, ouais, Repère Poste, ça fait longtemps que je postule, ça fait quelques années que j'envoie mon CV, ça fait, ouais, je la visais depuis longtemps, cette compagnie, parce qu'en fait, on pouvait du coup faire du cargo et du passager dans cette compagnie. Donc là, je me dis non, en fait, faut que je prenne Repère Poste. C'est clair, ça va. Enfin, ça va. C'est vachement plus enrichissant, je pense, pour moi, parce que j'ai super envie de faire du cargo. Je connais pas du tout. Je vais apprendre plein de trucs. Et du coup, je commence mon super CDD. Voilà, à l'été 2017, chez Repère Poste. Et là, beaucoup de choses quand même nouvelles. Donc les vols charter, les vols passagers, je connaissais un petit peu, mais le cargo, pas du tout. Puis aussi un détail super important, c'est qu'en fait, à Repère Poste, on pouvait faire à la fois du 737 classique, donc du 300, du 400 et du NG, donc le 737-700. Et ça aussi, ça a été un critère en fait pour moi parce que du coup, le 737 entre guillemets classique, c'est des avions qui sont pas éternels en fait et qui ont vraiment leur charme, c'est-à-dire que t'as encore des aiguilles. Donc c'était super. Et clairement, j'ai vraiment pas du tout regretté mon choix. C'était ambiance familiale, petite flotte, petit pool de pilotes. Et moi, je me souviendrai toujours de mes premiers vols cargo de nuit en France. C'était juste magique, quoi. En été, par ciel clair. En fait, tu vois tu devines les côtes françaises qui sont dessinées par les lumières des villes, et t'as la lune qui éclaire le sol. Enfin, c'est juste magnifique. Il y avait en plus ambiance de nuit, ambiance calme, un peu feutrée. Tu vois, il y a personne à la radio, c'est reposant. Et là, tu regardes le capitaine, tu fais, en fait, le ciel est à nous. Et c'est vraiment.
et On c'était. Peut faire ce qu'on veut.
Ouais, non, quand même pas. Dans nos rêves, ouais, on fait ce qu'on veut. Mais clairement, c'était... moi, ça m'a beaucoup plu parce que du coup, ouais, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et ouais, comme ça me faisait une corde de plus à mon arc de pilote. Et clairement, j'ai pas été déçue.
Ça nous amène à la fin de l'été 2017. Et tu reçois une des meilleures nouvelles de ta vie professionnelle. Après avoir réussi la sélection Air France en 2015, ils ont enfin une place pour toi. Comment t'as vécu ce moment ? Tu as commencé détaché à Transavia sur Boeing 737, machine que tu commences bien à connaître d'ailleurs. C'était comment d'intégrer un aussi grand groupe, mais dans une filiale qui reste presque à taille humaine finalement ?
Ouais, alors du coup, ce qui s'est passé, c'est voilà, c'était à la fin de l'été 2017, donc j'étais encore en poste chez Repair Post. Et là, je reçois le mail d'Air France qui me propose du coup un stage d'entrée en détachement chez Transavia pour très rapidement, du coup, pour avant l'hiver, du coup, en l'automne 2017. Et ouais, pareil, c'était tellement inattendu. Enfin, je veux dire, j'étais tellement focalisée sur mon boulot actuel. Je me dis bon, bah c'est super. On va repartir sûrement pour une autre saison à la poste. Moi je suis méga motivée. Enfin voilà, du coup dans ma tête c'était ça, c'est bon, bah je vais peut-être refaire encore deux ou trois saisons avant qu'il y ait une place chez Air France, parce que la liste d'intégration est longue. Et du coup ce mail, c'était un peu le Graal, quoi. J'étais là, mais il y a une place pour moi, quoi. 7 ans après ma fin de l'ENAC, donc c'était juste inoubliable, en fait. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu seulement du coup 2 semaines de battement, en fait, entre la fin de mon CDD et le CDI que j'ai signé du coup en détachement chez Transavia. Donc tout s'est super bien goupillé, c'était nickel, enfin parfait. Je mettais personne en porte-à-faux, voilà. Et puis voilà, quand j'ai dit à mon chef pilote, voilà, mon chef pilote de Transavia, de Repair Post, que je partais, je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas dire non là. Là, c'est une offre que personne ne refuse, et voilà, et même si je suis triste de vous laisser, bah il faut que j'y aille, quoi. Là, c'est le moment. Donc du coup, voilà, quelques simus juste pour moi, voilà, pour remettre les, voilà, requalifier. On fait du simu tous les 6 mois, donc je refais juste quelques simus parce que finalement j'ai déjà les heures sur la machine à la qualif 737NG qui est déjà valide, et hop, me voilà de nouveau du coup sur 37, où justement je retrouve en fait la même ambiance familiale qu'à Repair Post, parce que du coup c'était une petite flotte, un petit pool aussi pareil de pilotes et de PNC, bon évidemment qui est en expansion aujourd'hui, ce qui est une super chose aussi, hein. Mais c'est vrai que du coup ça m'a pas trop dépaysée, et du coup l'adaptation s'est faite assez rapidement. Du coup, c'est ça qui était bien, c'est que je retrouvais toujours mon avion favori, et voilà, et c'était voilà comme refaire du vélo, c'était pareil, c'était génial.
Les étés sont souvent des moments où ta carrière de pilote monte d'un cran. Et l'été 2019 ne fait pas exception à la règle. On te propose le passage sur long courrier, sur Boeing 787, c'est génial. Parle-nous un petit peu de l'avion, du réseau, du long courrier. Bon voilà, encore une fois, dis-nous tout.
Ça marche. Ce qui s'est passé, passage très rapide, parce que du coup, voilà, c'était avant la nouvelle crise, donc où après seulement même pas 2 ans, en fait, un peu moins de 2 ans chez Transavia, du coup j'ai postulé pour passer sur long courrier chez Air France, soit le Boeing 777, soit le 787, et là pareil, il y a une place sur le 787 qui m'attend, donc je suis passée super rapidement du coup sur long courrier, voilà, et pour rejoindre justement la maison mère que du coup je connaissais pas, en fait, je connaissais que Transavia. Et là, pareil, c'était... Ouais, pour moi, c'était vraiment comme gagner au loto, quoi. Parce que c'était mon rêve de gosse, le long courrier chez Air France. Enfin, j'avais les étoiles dans les yeux quand j'ai su que j'avais ma place qui m'attendait en qualif. J'étais tout excitée. C'était génial, quoi. Du coup, voilà, je commence la qualif, du coup, fin 2019. Voilà, j'intègre, voilà, pareil, un petit réseau, en fait, parce que du coup on a 10 avions, donc pareil, on a un petit pool de pilotes, donc en fait toujours pas dépaysé, en fait, j'ai de la chance, en fait, je reste toujours pour l'instant dans des des petits réseaux, petite ambiance familiale et ça j'aime bien du coup. C'est pas, pour l'instant je connais que ça, donc c'est sûr que donc c'est plus facile pour s'adapter. Mais voilà, avec un réseau, on fait un petit peu de tout, un petit peu d'Amérique, un petit peu d'Asie, un peu d'Afrique. Ouais, vraiment. Et l'avion, je sais même pas. Je pourrais t'en parler pendant des heures. parce que c'est un super avion, 787. C'est un Boeing qui est moderne, mais ça reste un Boeing avec les assistances dont tu as besoin, je pense, pour justement des vols très très longs, 12 heures, 14 heures de vol, où tu as besoin d'un minimum d'assistance pour soulager un petit peu. Mais ça reste quand même une philosophie Boeing. Et on nous a mis un magnifique HUD. Alors pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est le Head-Up Display. Donc c'est un affichage tête haute où on a toutes les informations en primaire de vol. Et ça, c'est un outil redoutable pour piloter. C'est magique, pareil. Je connais ces principes parce que forcément, les HUD, t'en as sur d'autres Airbus. T'en as beaucoup en aviation d'affaires. Et ça, du coup, j'étais tellement contente de pouvoir enfin en faire. Clairement, c'était le petit cerise sur le gâteau, ouais. Un bel avion comme ça. Et moi, ce qui m'a marqué, ouais, en fait, c'était mon premier vol, en fait, justement en 787. Quand je suis tombée en AEL, donc en adaptation en ligne, c'est-à-dire c'est les premiers vols qu'on fait sous supervision d'un capitaine instructeur. À la suite de tous ces vols, bah du coup, on a un test, le lâcher. Donc là, moi, c'était mon premier vol, c'était Nairobi, du coup, au Kenya, et on arrivait, du coup, un vol de nuit, et en fait, on voyait le soleil qui commençait à peine à se lever, et le ciel, justement, là, pour une fois, il était pas si rose que ça, il était à la fois rouge et un petit peu violet, et en fait, on slalomait entre les nuages, grâce en fait à l'approche qui était aux instruments qui étaient codés comme cela ce jour-là, enfin, c'était le hasard, hein. Et du coup, ça nous a emprunté, une certaine route, qui slalomait dans des petits cumulus, mais la lumière, elle était juste magnifique. Alors forcément, j'étais occupée à piloter, parce que c'est moi qui posais l'avion, mais la vue, elle était juste topissime. Et du coup, j'étais super fière, parce qu'en fait, c'était mon tout premier vol Air France, à 33 ans, et je me suis dit, waouh, en fait, je me suis lancée dans cette conquête il y a déjà 20 ans. Et là, j'ai réalisé, en fait, le chemin que j'avais parcouru. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Enfin, du coup, c'était vraiment impressionnant humainement parce que j'avais tellement attendu ce moment-là que j'en revenais pas, en fait. Enfin, j'avais atterri, mais dans ma tête, j'étais encore dans l'avion, quoi.
C'était un aboutissement.
C'était un objectif de carrière, de faire du long courrier en France. Et voilà, exactement, c'est ça.
Ça doit être génial. En plus, avec tu parlais du viseur tête haute, donc tu as pu un peu profiter du paysage, même en continuant à piloter ton avion.
Oui, exactement. C'est ça qui est super. C'est que du coup, on l'a tout le temps sorti pendant tout le vol et on s'en sert du coup beaucoup, beaucoup. Du coup, on pilote en tête haute et ça permet justement de bien, bien tout voir à travers l'extérieur. Et c'est juste parfait, quoi.
Alors, on approche de la fin de l'épisode et c'est une constante dans l'expérience Shiban. Donc voilà, c'est le moment. Est-ce que tu peux nous raconter une ou plusieurs anecdotes qui t'ont particulièrement marqué?
J'ai une petite anecdote auquel je pense, qui est assez drôle et qui m'est arrivée il y a très très longtemps, parce que du coup c'était à l'ENAC pendant ma formation du coup de pilote professionnel. Pendant la première phase, en fait, où on fait le vol à vue et où on passe du coup la licence de pilote commercial qui s'appelle le CPL sur TB20. À ce moment-là, c'était le jour de mon test CPL. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le testeur se met sur la banquette arrière et votre instructeur qui vous a suivi se met à votre droite, en fait, à l'avant avec vous. Le test se passe super, aucun souci, on fait tout ce qui est prévu au programme du test. Et là, du coup, je commence à sortir le train, c'était la fin du vol. Je sors le train, parce que c'est un train rentrant, pour ceux qui ne le savent pas. À ce moment-là, en fait, je devais soit être en léger virage, j'avais pas forcément les ailes à plat, donc peut-être que... Enfin, je me souviens plus exactement de la raison pour laquelle, mais je pense que j'avais pas totalement les ailes à plat. Et là, je vois le témoin lumineux en fait de rentrée de sortie du train qui est vert, mais sauf la roulette de nez. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un voyant qui était rouge qui m'indiquait qu'en fait ma roulette de nez, elle n'était pas sortie ou pas verrouillée, quoi. Du coup, là, je regarde mon instru, qui est à ma droite, avec un grand sourire en mode « T'as voulu me faire une blague, là ?»
C'est pas le bon
je regarde, je fais, mais c'est toi qui as fait ça ou enfin en mode tu as t'as tiré un breaker ou t'as fait quelque chose que je connais pas pour simuler une panne de train, j'imagine que ça. Je regarde du coup avec un grand sourire et là il se passe une seconde, il dit bah non Delphine, là c'est pas moi en fait pour une fois, parce que du coup on a l'habitude qu'on simule des pannes pour entraînement évidemment, mais en simulation. Donc oui, il dit que c'est pas lui. du coup je commence à me dire bon bah c'est pas grave, c'est peut-être une vraie panne, bon bah je vais faire comme on m'a appris pour traiter une panne, voilà, on est formé pour, c'est le but du jeu, c'est le but de la formation. Et avant toute chose, et bah là j'ai eu un petit éclair dans ma tête et je me suis souvenu en fait de ce que mon instructeur m'avait dit pendant la formation quelques mois auparavant. Il nous avait dit les stagiaires, écoutez, de temps en temps, ça peut arriver sur les petits avions avec train rentrant. Si vous ne sortez pas forcément le train avec les ailes à plat, des fois, ça se ferrouille mal la roulette de nez, mais rien de grave. Du coup, vous pouvez donner un petit coup de palonnier souple droite-gauche pour essayer justement de résoudre le problème et de bien verrouiller la roulette de nez. Et là, je me souviens de ce qu'il a dit. Je fais bon, j'ai quand même essayé ça parce que du coup, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'il m'avait décrit il y a quelques mois, mais du coup, je l'avais pas vu en vrai. Je savais pas quoi. Du coup, je commence à m'exécuter avec le petit suspense. Je fais un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais bon, à souple hein, quand même. Faut pas y aller trop fort. Et là, tout d'un moment, en deux secondes, je vois du coup la roulette de nez qui passe verte. Et là, du coup.
Bingo,
j'étais toute
bon.
Fière, voilà. Bingo, je vois les trois vertes. Je suis fière de voir que ça marche, parce que du coup, je ne l'avais jamais testé. Je regarde et je lui dis, ah ben voilà. Avec un grand
bon,
sourire. C'est ça. Et ouais, du coup, en fait, ça m'a super marquée, parce que, bon, en fait, c'était plutôt cocasse, parce que j'étais mais vraiment persuadée que c'était une blague ou une panne simulée, en fait. Et le temps que je comprenne que, bah non, en fait, c'était pas du tout lui, bah en fait, ça m'a paru tellement long dans la tête, parce que pour moi, j'avais du mal à admettre que c'était peut-être, c'était juste un dysfonctionnement, mais qui arrive, comme un dysfonctionnement mineur qui se résout en deux secondes. Et du coup, j'étais un peu bluffée par l'événement, parce que je dis, évidemment, ça m'arrive sur mon test en plus. Et voilà, mais heureusement, avec un bon instructeur, on s'en sort bien, ce qui sont bons conseils. Voilà.
Ouais, cet effet de sidération, quand pour la première fois, c'est pas une simulation, quoi.
Exactement, bah c'est ça, c'est ce que je savais. Voilà, je ne connaissais pas encore à cette époque parce qu'on était encore en formation à l'ENAC, donc exactement, c'est ça. Voilà.
Et bien, après cette belle anecdote, pleine d'enseignements. Je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire avant qu'on se sépare ?
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, voilà, pour conclure un peu du coup cette interview, ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est que voilà, dans le monde aérien, faut, je pense du coup, toujours avoir un plan B, comme plein de gens le conseillent, plein de pilotes, mais un plan B pour au cas où ça ne marche pas tout de suite, pas un plan B en disant ah bon bah si je suis pas pilote je fais autre chose, non, un plan B c'est-à-dire un vrai plan B pour s'occuper le temps que ça marche, quoi. Et ça c'est un truc c'est un conseil bête, mais clairement ça peut quand même vous dépatouiller pas mal de galères si vous avez pensé voilà qu'est-ce que je fais si ça marche pas tout de suite, quoi. Et ce qui est important aussi à garder en tête, c'est que ce qu'on m'avait donné aussi comme conseil, c'est qu'en fait il faut toujours garder ses licences à jour, être prêt parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Et ça c'était déjà vrai avant la crise, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et moi ce qu'on m'avait dit, c'est, et ce qui est carrément vrai, c'est que les seuls qui n'y arrivent pas en fait, c'est ceux qui ont abandonné. De mon vécu de mes 10 dernières années dans l'aérien. Et ben c'est vrai, les gens qui s'accrochent, et ben les gens, ils y arrivent. Et moi, j'ai mon recul sur la dernière crise, donc pas la nouvelle, mais celle que j'ai vécue là pendant presque 10 ans, c'est clairement, ben, en fait, je dirais pas que je suis contente qu'il y ait cette crise, parce que ce serait quand même mentir, mais en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai su profiter en fait, de cette crise pour faire autre chose. Et en fait, j'ai fait des choses qui aujourd'hui m'ont rendu plus forte, c'est-à-dire que j'aurais peut-être jamais fait de largage s'il n'y avait pas de crise, j'aurais jamais fait de cargo non plus, et j'aurais jamais bossé pour un constructeur d'avion. Et clairement, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir fait ça, parce que ça me donne du recul et un autre regard sur tout ce que je fais aujourd'hui, sur tout ce qui m'arrive, sur tout ce que je peux apporter aussi aux gens. Et clairement, c'est le fait d'avoir fait autre chose, et c'est vraiment un enrichissement professionnel et même personnel, en fait, indéniable, et de mon point de vue d'aujourd'hui. Donc j'encourage vraiment les gens à se diversifier, mais surtout à pas de perdre de vue l'objectif, mais à profiter de la situation et à essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus profitable pour votre situation à un moment donné, quoi. Et surtout ne rien lâcher.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Delphine.
Merci, Sébastien.
Bah, j'ai personnellement passé un super moment et j'espère que l'auditrice ou l'auditeur aussi. Et puis voilà, on apprécie beaucoup ta passion et ta persévérance, et je te souhaite de très bons vols aux quatre coins
c'est
du globe en Boeing 787.
Oui, merci beaucoup Sébastien, super, merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'expérience Shiban. Suis-nous sur ta plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux. Mets-nous des étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit sur Apple Podcasts, et n'hésite pas à parler de nous autour de toi. Pour la prochaine discussion avec une ou un invité passionnant, on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt.